Mesdames, messieurs, Yel, bonjour, ici Monsieur Côté et voici 3 pour toi, ta dose d'actualité pour t'informer, mieux comprendre, t'encourager et qui sait, peut-être même t'inspirer. Mesdames, messieurs, je commence avec une première nouvelle, eh bien bonne nouvelle. Comme vous savez, il y a un conflit au Moyen-Orient qui oppose Israël et le Hamas, mais après plus de 50 jours de confrontation armée, eh bien il y a eu une entente, c'est-à-dire une trêve entre les deux opposants, soit Israël et le Hamas palestinien. Alors, il faut comprendre ce qui est extraordinaire là-dedans. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été négocié, et donc ça veut dire que les deux côtés ont accepté de se parler, de négocier, et réellement, le cessez-le-feu, il y a eu une entente et il a été respecté. Cette trêve a commencé vendredi le 24 novembre et elle a été respectée. On nous dit dans l'article de la presse du 27 novembre, pris de l'agence France Presse, que 11 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza et 33 prisonniers palestiniens ont été libérés là, et échangés. Les termes de l'entente, c'est qu'on échange du 1 pour 3. Du 1 pour 3. Donc, un otage israélien échangé contre 3 prisonniers palestiniens. Voilà. On apprend aussi plus loin dans l'article que 69 otages, dont 50 Israéliens, ont été libérés jusqu'à présent par le Hamas. 150 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés. Et le Hamas cherche de son côté à prolonger la trêve au-delà de ces 4 jours. Et il y a discussion pour que ça se poursuive. Alors, au moment de décrire ces lignes, nous sommes le mercredi 29 novembre et on tente de prolonger. Voilà, c'était la nouvelle numéro 1, bonne nouvelle. Voilà ce qui arrive lorsqu'on réussit à se parler, à s'entendre. Nouvelle numéro 2, plus près de chez nous, ici, un article du Journal de Québec, sous la plume de Marc-André Gagnon, nous apprenait samedi le 25 novembre que le parti politique Québec solidaire, pour les gens de la francophonie qui ne savent pas, Québec solidaire, c'est un parti politique de gauche, certains diraient même d'extrême gauche, au niveau national québécois, qui prône ses valeurs. Et ils ont décidé, lors de leur assemblée qui s'est tenue à Gatineau, de se mettre d'accord pour exclure les hommes temporairement du processus d'investiture là, pour devenir candidat député à l'élection provinciale québécoise. Donc, et le tout afin de laisser place, dit-on, uniquement aux femmes ou aux personnes non-binaires. Voilà. Certains observateurs et participants ont déclaré « On ne détruira pas le patriarcat à coup de suggestions », fermez les guillemets, c'était les paroles de Maïka Sundarji, militante de Québec solidaire. Tout ça pour dire que, eh bien, ce n'est pas seulement avec des paroles qu'on va arriver à l'égalité homme-femme, prenant pour acquis que les hommes ont le haut du pavé. Eh bien, Mme Sundarji dit ben, « Il faut prendre des résolutions pour y aller ». Un peu plus loin dans l'article, on nous dit également que l'objectif de cette résolution est, on dit, d'augmenter la diversité et d'atteindre la parité, hein, l'égalité, au sein du caucus, hein, l'Assemblée des membres de Québec solidaire. Voilà, actuellement, on nous dit qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes dans leur caucus. Voilà, mesdames, messieurs, nous, de 3 pour toi, on se base généralement sur les grandes déclarations universelles des droits de l'homme et de la femme, les chartes des droits et libertés, et ben, pour n'en citer qu'une seule, celle, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle dit dans son préambule, la toute première considération, je vous la cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux est inaliénable et constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Et là, ça continue, il y a 6 autres considérations. Et on arrive à l'article 1, article 1er qui nous dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » L'article suivant, l'article 2, et on conclut là-dessus, nous dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Ça continue. Et comme vous voyez, les deux premiers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont d'ailleurs en accord avec celle du Québec et du Canada, bien, ils visent l'égalité homme-femme et les posent même comme fondement à la liberté et la démocratie pour les humains. Voilà, qu'en pensez-vous? Dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez nous rejoindre à travers le courriel du podcast. Mesdames, messieurs, le troisième article tiré de nos archives, un vieil article de la revue The Economist, revue anglaise, dont le titre était originalement « What Eyes and Odors Reveal About Sexual Attraction, One Hypothesis is Supported and Another Not ». Alors, qu'est-ce que les yeux et l'odeur révèlent à propos de notre attraction sexuelle entre hommes et femmes? Donc, une hypothèse est supportée hein, et l'autre ne l'est pas. Mesdames, messieurs, les deux questions étaient les suivantes. Est-ce que les hommes et les femmes marient leur mère? Est-ce que les femmes marient quelqu'un qui ressemble à leur père? La seconde question était, est-ce que les gens choisissent plus de potentiels partenaires en se fiant sur l'odeur, sur l'odorat? Hein? Eh bien, on nous dit que Jannick Lobmeier, qui a fait la recherche sur l'odorat, Lobmeier qui est de l'Université de Berne en Suisse, ainsi que ses collègues, ont étudié la question pour vérifier si les gens, littéralement, avaient la tendance à renifler leur possible partenaire amoureux, dans le sens où ils auraient une compatibilité la génétique hein, en choisissant une personne dont les gènes étaient plus diversifiés que les leurs pour avoir possiblement une progéniture plus forte. Eh bien, après avoir fait le test entre 42 femmes et 94 hommes qui ont reniflé, n'est-ce pas, des femmes qui, dans ce cas-ci, étaient au meilleur de leur cycle reproductif, eh bien, la recherche n'a pas conclu qu'il y avait significativement de choix qui étaient faits en faveur de quelqu'un dont l'odeur nous révélait une compatibilité là, génétique avec quelqu'un qui a une diversité supérieure à la nôtre. Dans l'autre cas d'étude, la docteure De Bruyne, qui, elle, provient de l'Université de Glasgow, en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Elle et ses collègues ont fait une étude concernant 150 hommes et 150 femmes. La moitié de ceux-ci étaient des hommes qui étaient attirés par des femmes et l'autre, évidemment, des femmes qui étaient attirées par des hommes. Il y avait également une portion représentative d'homosexuels qui, eux, étaient attirés par le sexe. Et là, on a vérifié, après calcul, que les femmes hétérosexuelles étaient deux fois plus attirées vers quelqu'un qui avait la même couleur d'yeux que leur père. C'était le même cas chez les hommes homosexuels, même couleur d'yeux que leur père. Dans le cas des hommes hétérosexuels pardon, et des femmes homosexuelles, eh bien c'était ils étaient attirés deux fois et demi plus vers une personne qui avait les yeux de la même couleur que les yeux de leur mère. Voilà qui est concluant. Voilà, mesdames, messieurs, c'était la deuxième actualité. Que dis-je? C'était la troisième. Bonus, je termine avec une actualité bonus pour les gens plus proches. On va se faire plaisir. Ici, à Montréal, eh bien, les Carabins de l'Université de Montréal remportent la Coupe Vanier au football américain. Donc, dans le championnat canadien universitaire de football, eh bien, ils ont remporté la Coupe Vanier, un affrontement qui s'est produit contre les Thunderbirds de l'Université de Colombie-Britannique. La victoire de Montréal a été confirmée 16-9, et il faut le dire, aucun toucher n'a été marqué donc par la Colombie-Britannique contre Montréal. La défensive de Montréal a été très très bonne. Donc ils ont réussi à empêcher leurs adversaires de Colombie-Britannique de transporter le ballon dans la zone des buts. Ils n'ont marqué qu'en bottant le ballon. Donc, il faut le dire, on va célébrer Montréal, hein, puisque au niveau professionnel, les Alouettes ont remporté la Coupe Grey, donc canadienne, la semaine précédente. Montréal est donc la capitale du football américain 2022-2023. Mesdames, messieurs, c'était les actualités, c'était ta dose d'actualité. Je suis Monsieur Côté, c'est ça l'affaire. À la prochaine.